La Cour, the court.
Alors, merci de vous asseoir. Alors, bonjour. Alors, donc, dans l'affaire de Gabriel Boudreau contre Sa Majesté le Roi, Maître Alain Dumas pour l'appelant Gabriel Boudreau, Maître Olivier T. Raymond et Maître Sabrina Lambert-Michel pour l'intimé Sa Majesté le Roi. Et j'informe les personnes présentes que la juge Obonsawin siège, mais elle siège à distance. Alors, donc, nous sommes cinq ce matin et non pas seulement quatre que vous voyez en personne. Alors donc, Maître Dubas, vous êtes prêt à commencer?
Oui, merci, Madame la juge. Alors voici, alors Madame la juge, Mesdames les juges et Messieurs les juges, comme c'est souvent le cas, autant à la Cour d'appel qu'ici, il y a toujours des difficultés à déterminer à quel moment des erreurs commises par les juges de première instance justifient d'abord la Cour d'appel, puis après la Cour suprême d'agir, d'intervenir pour souvent casser des verdicts, soit de culpabilité ou non-culpabilité. Dans la cause présente, je dirais que c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a une petite difficulté additionnelle, c'est que pendant le procès, et d'ailleurs je vais commencer avec ça, pendant le procès, à la fin du témoignage de l'appelant, la juge de première instance a tenu, après l'interrogatoire et le contre-interrogatoire de l'appelant, la juge de première instance a tenu à obtenir des précisions de la part du témoignage de l'appelant. Et on a ça à l'onglet 3, là, ça dure deux pages. Alors, je me permets de rappeler brièvement qu'est-ce qui s'est passé, parce que là, ça a une grande importance, ou dire même de la juge de première instance, alors qu'elle dit à M. Boudreau qu'elle a besoin d'obtenir des précisions pour bien comprendre. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé, la juge rappelle un peu à M. Boudreau ce qu'il a dit dans son témoignage antérieurement. Et elle lui rappelle d'abord qu'il suivait le véhicule Kia, que lorsque il circulait derrière le véhicule Kia, il circulait à une vitesse assez grande, soit 120 ou 125 km/h. Et là, la juge lui demande de décrire qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le véhicule Kia change de voie. Et là, ici, c'est important de comprendre, pour bien comprendre comment l'accident s'est produit, c'est que l'autoroute du Plessis a deux voies, comme beaucoup d'autoroutes, et la voie de gauche est souvent la voie la plus rapide, et la voie de droite est la voie plus lente, et souvent les gens qui veulent quitter l'autoroute pour prendre des bretelles, pour aller prendre d'autres rues, cette voie-là est toujours plus lente. Et là, la juge demande à M. Boudreau, lorsque la Kia a voulu s'engager dans le chemin Sainte-Foy, à la page 114 en haut, là, pour s'engager dans le chemin Sainte-Foy, qu'est-ce que vous faites à partir de ce moment-là? Et là, il y a eu une petite confusion par rapport à cette question-là, parce que le véhicule Kia s'est déplacé d'abord de la voie rapide à la voie de droite. On le voit très bien sur la vidéo. Lorsqu'on aperçoit les deux véhicules sur la vidéo, on est à 37-38 secondes de la vidéo. Lorsqu'on voit arriver les deux véhicules, c'est pas contesté, c'est en preuve que la Kia précède le véhicule conduit par M. Boudreau. Et on arrive passablement vite. M. Boudreau situe sa vitesse à 120-125 km/h. Et là, le véhicule Kia se déplace dans la voie de droite. M. Boudreau demeure toujours dans la voie de gauche. Et là, on circule pendant une dizaine de secondes. Et on constate aussi sur la vidéo que lorsque on aperçoit les deux véhicules roulant beaucoup plus vite que la voie de droite, c'est sûr, mais on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on avance sur le boulevard, sur l'autoroute du Plessis, les deux véhicules s'approchent, surtout le véhicule Kia qui est dans la voie de droite, s'approche des véhicules dans la voie de droite qui va moins vite. Et là, à un moment donné, on voit tranquillement M. Boudreau dépasser la Kia et à l'approche, et ça, c'est un peu la faiblesse du dossier, à l'approche de la sortie du chemin Sainte-Foy. Il faut faire la distinction. À l'approche de la sortie du chemin Sainte-Foy, le véhicule Kia, c'est à peu près la dernière chose qu'on voit sur la vidéo, le véhicule Kia s'en va prendre la bretelle pour sortir. M. Boudreau continue toujours à la gauche. Et là, peu de temps après ça, il affirme que Mme Mercier s'est déplacée dans sa voie puis qu'il n'a pas eu le temps de l'éviter parce qu'elle s'est déplacée alors qu'il était tout prêt. Je veux dire, il n'a pas eu le temps de freiner. Et là, la juge pose une question à M. Boudreau. À partir du moment que la Kia se tasse, vous circulez sur quelle distance avant que le véhicule de Mme Mercier apparaisse? Et M. Boudreau répond 2 à 300 mètres. Après ça, la juge lui fait confirmer qu'effectivement, c'est à ce moment-là que le véhicule de Mme Mercier se tasse. Et là, la juge lui rappelle la question, la ligne 21. Je n'ai pas fait le calcul à 105 km. Puis là, M. Boudreau disait qu'il avait ralenti. Et là, je vous signale tout de suite que quand on examine et qu'on observe attentivement la vidéo, on se rend compte qu'à partir d'un certain moment, le véhicule qui a emprunté la voie de droite doit ralentir. Parce que la voie de droite est plus lente. Alors, il doit nécessairement ralentir, et on le voit ça sur la vidéo. Et pendant que la Kia ralentit, M. Boudreau, qui est dans la voie de gauche, est à peu près vis-à-vis le véhicule de la Kia. Il la dépasse tranquillement, et c'est seulement rendu pratiquement à la sortie du chemin Sainte-Foy que M. Boudreau est en avant de la Kia. Alors, si la Kia a ralenti dans la voie de droite parce que la voie est plus lente, nécessairement, M. Boudreau, quand il dit qu'il a ralenti à 100, à 105, je pense qu'il dit la vérité. Et là, la juge lui dit, je n'ai pas fait le calcul, mais à 105, 110 km/h, ça prend moins d'une seconde pour faire cette distance. Là, M. Boudreau est un petit peu étonné de cette question-là. Il répond « quelques secondes ». La juge dit « vous diriez quelques secondes ?»« Oui, 1 à 2 secondes ». Et là, on voit que cette question-là a ébranlé M. Boudreau au point que c'est comme si son explication était difficile, mais en pratique, je pense que Mme le juge a commis une erreur importante ici parce que à 100 km/h, à 105 km/h, on fait 30 mètres à la seconde. Et si on calcule bien, 200 à 300 mètres, comme le dit M. Boudreau, ça prend 10-12 secondes sûrement. Alors là,
je comprends oui. Ça, ce que vous nous dites, mais vous êtes en train essentiellement de nous demander de revoir l'appréciation par la première juge de la preuve qui a été faite devant elle. Parce que là, vous nous racontez les faits et vous nous dites la juge de première instance, finalement, a fait une erreur parce qu'elle n'a pas cru votre client. s'est fondée sur le témoignage de... Elle a apprécié le témoignage non seulement de la plaignante, mais des autres témoins. Elle a regardé les photos, elle a regardé la caméra, elle a regardé le rapport d'évaluation des dommages, puis elle a fait une appréciation de la preuve qui l'a amenée à conclure comme elle l'a fait.
Oui, sauf Madame la juge, je suis d'accord. Sauf que quand, dans l'appréciation de la preuve, il faut réaliser que la juge, dans ce que j'appellerais l'appréciation de la preuve ou dans l'analyse de la preuve, la juge commet des erreurs qui l'amènent à ne pas croire la plainte. Et les erreurs qu'elle commet sont quand même significatives. On a un bel exemple ici, là. On a une preuve vidéo. La preuve vidéo est objective. C'est une preuve qui ne ment pas, ça. On voit deux véhicules arriver sur le boulevard, dans l'autoroute du Plessis, au moins 15 à 20 secondes avant l'accident, circuler l'un derrière l'autre d'abord pendant pas longtemps, et par la suite, on voit l'un des véhicules se tasser, se diriger vers l'endroit où on va savoir qu'il s'est produit un accident plus tard. Et la juge, pour ne pas croire la plainte, commet des erreurs. Elle commet une erreur de... C'est-à-dire...
Maître Dumas, est-ce que je peux vous poser une question, justement, par rapport à cet ensemble de la preuve qu'évoque ma collègue, la juge Côté? Vous me corrigerez si je me méprends là dans ma question. Je comprends que la vidéo ne capte pas le moment de la collision. Et donc, pour comprendre ce qui s'est produit au moment de la collision, la juge devait soupeser l'ensemble de la preuve. Et dans la preuve, vous nous le citez dans votre livre condensé, le témoignage de la plaignante, un extrait du témoignage de la plaignante, pas tout. C'est à votre onglet 2. Et drôlement, la couronne, enfin, l'intimé ici, devant nous, cite le même passage, entre autres, de son témoignage. Puis elle dit, si je comprends bien, qu'elle, en arrivant vers la sortie du chemin de Sainte-Foy, elle voyait que ça congestionnait, que donc, forcément, elle ralentissait, et sachant qu'elle ne voulait pas, les autres voitures voulaient sortir et rentrer, elle se tasse dans la voie rapide, n'est-ce pas?
Oui.
Et là, c'est ça ce qui le sens de ma question. Par la suite, dit-elle, tout simplement, tout ce que j'ai vu, j'ai pas vu grand-chose, j'ai senti le coup lorsque mon véhicule a été heurté. Alors, vos collègues de la Couronne, parce que là, il y a le problème du site de dommage, des dommages au véhicule. Et si la plaignante circulait dans la voie de droite, elle se tasse dans la voie de gauche, elle complète ses manœuvres pour arriver dans la voie de gauche, elle continue à circuler dans la voie de gauche, peut-être pour peu de temps, mais l'impact survient là, après la manœuvre, mais là, le site du dommage à sa voiture à elle serait toute la derrière, et pas juste le côté gauche, là, où, n'est-ce pas? Alors, je me suis demandé, à partir de cet extrait que vous citez et que l'intimé reprend, est-ce qu'il n'y a pas là un élément de preuve qui permettait à la juge d'arriver à sa conclusion quant à son sens de l'importance du site des dommages par rapport au reste de la preuve?
Bien, ça, la question, M. le juge, du site des dommages, c'est pas clair parce que le rapport indique d'abord que les dommages sont du côté gauche du véhicule de Mme Mercier. Le véhicule de Laplan, malheureusement, l'enquête policière a été, je dirais, très faible dans ça. On a pris pour acquis, au départ, que c'est une conduite dangereuse. On n'a même pas pris de photo du véhicule de Laplan. La plainte dit que son véhicule est abîmé surtout du côté droit à l'avant. Alors, si l'accident s'est produit alors que Madame a eu le temps, c'est sûr que si Madame Mercier a eu le temps de circuler dans la voie de gauche, même si elle n'a pas circulé très longtemps, si elle est complètement percutée par l'arrière, je l'avais concédé en cour d'appel, si on est convaincu que l'accident s'est produit comme ça, M. Boudreau est coupable. Mais ça se peut pratiquement pas que l'accident se soit produit comme ça. Quand on écoute Mme Mercier elle-même, qui dit au départ qu'elle s'est tassée dans la voie de gauche un peu avant la sortie du chemin Sainte-Foy. Et quand elle fait ça, si on analyse la preuve vidéo avec le témoignage de M. Boudreau, on se rend compte que M. Boudreau dit probablement la vérité, que l'accident s'est produit presque à ce moment-là, parce qu'il est arrivé devant lui et qu'il n'a pas eu le temps de l'éviter parce qu'il était dans son angle mort. Évidemment, on n'a pas une preuve. On n'a pas une preuve évidente de ça, mais on n'a pas une preuve évidente que ça s'est passé comme la juge le dit dans son jugement, alors que pour arriver à cette conclusion-là, que l'accident s'est produit comme ça, Madame la juge Gagné, à cour d'appel, a cité l'extrait où la juge est convaincue que Mme Mercier était déjà dans la voie de gauche, bien avant l'accident. Et quand l'extrait que je vous ai lu tantôt, la juge, quand M. Boudreau a dit qu'il, pendant qu'il circulait dans la voie de gauche à côté du véhicule qu'il a, il a circulé au moins 200 à 300 mètres avant que Mme Mercier se tasse. Et ça, si on analyse comme faut le vidéo, nécessairement, ça correspond, quand M. Boudreau affirme ça, ça correspond au moment où probablement Mme Mercier s'est tassée et c'est là que l'accident est arrivé. Mme Mercier, elle a rajouté, après avoir dit ce qu'elle a dit, l'extrait qu'on a mis dans l'onglet 2, elle a rajouté après à des questions de la couronne, on va reprendre ça tranquillement. Et là, tout d'un coup, elle circule dans la voie de gauche. Et elle aurait circulé dans la voie de gauche plusieurs secondes. Mais si elle avait circulé dans la voie de gauche plusieurs secondes avant de se faire frapper, l'accident serait arrivé beaucoup plus loin. Parce que ça, c'est une autre chose. M. Boudreau est un peu victime de la faiblesse de la preuve de la couronne où on n'a même pas été capable d'établir l'endroit exact où s'est produit la collision. Alors là, à partir du moment où on réalise que la juge en première instance a commis des erreurs d'appréciation et d'analyse de la preuve, bien, je pense que Madame la juge Gagné avait raison de dire que, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai concédé dans mon mémoire, que elle leur donnait un nouveau procès parce qu'il y a comme des points d'ombre un peu dans ce dossier-là, en raison de certaines lacunes dans la preuve de la couronne, mais là, c'est M. Boudreau qui paie pour ça. Mais, en tout cas, c'est vrai que c'est souvent en droit criminel, c'est factuel, mais l'autre chose que je veux dire aussi, la version de Mme Mercier puis la version de M. Boudreau, c'est pas essentiellement des versions contradictoires. C'est des versions différentes. Parce que chacun a une position différente pour expliquer l'accident. Et Mme Mercier, la première chose qu'elle dit, c'est un peu troublant quand on l'entend dire, j'ai pas vu grand-chose. Elle n'a pas vu grand-chose parce qu'elle n'a pas vu le véhicule de M. Boudreau qui s'en venait, puis qui l'a frappé. Puis elle ne dit pas, j'ai été frappé 4 secondes après. Est un peu surprise, puis elle dit c'est relativement simple et court. Alors, ce qui me fait dire que l'intervention de Mme la juge Gagné en cour d'appel, c'est l'aspect que M. Boudreau, dans ses explications, M. Boudreau, sont presque toutes confirmées par la preuve vidéo.
Mais justement, Maître Dumas, qu'est-ce que nous devons faire, nous, ici, au deuxième palier d'appel, du fait que les trois témoins qui n'ont pas vu l'accident, j'en conviens, mais ne confirment pas l'estimé de la vitesse de l'appelant? Il y avait même un témoin, sauf erreur de ma part, qui parle de 160 km l'heure plutôt que 125,
oui, bien
qui parlait de, on parlait des courses, c'est-à-dire une espèce de des circonstances que la juge avait devant elle, qui, je le note, ne visait pas le moment de la collision, et je comprends que les voitures se sont ralenties à l'approche de la sortie du chemin de Sainte-Foy, mais que c'était dans la preuve. Toute la preuve était devant elle. Et nous, en appel, nous n'avons pas ces avantages d'appréciation de la preuve de première main.
Monsieur le juge, j'avais raison de dire ça, mais en pratique, d'abord, la preuve des événements qui se sont produits avant qu'on... C'est bien sûr que quand, à partir du moment qu'on voit les véhicules sur la vidéo, tout ce qui s'est passé avant, les trois témoins de poursuite qui ont prétendu que les deux véhicules coursaient, on témoigne d'événements qui se sont produits avant. Mais là, vous me donnez un exemple de la vitesse. Il y a quand même un témoin de la couronne qui situe la vitesse à 125, il y en a un à 100, il y en a un à 160. Alors là, l'appelant dit qu'elle est 125. Alors, il y a au moins un témoin de la couronne qui l'évalue lui aussi à 125. Et l'autre affaire, c'est que l'accusation, c'est conduite dangereuse causant des lésions. Supposons que M. Boudreau aurait eu une conduite à tout le moins imprudente avant. Mais dans cette conduite imprudente-là, il y a plein de contradictions. Entre autres, la juge, Mme la juge Gagné l'a signalé, l'un des témoins identifie les véhicules qui coursent, puis c'est pas les deux mêmes véhicules. Alors ça, cette preuve-là n'a aucune valeur selon moi. Après ça, il y a deux témoins dont la même témoin dit que les véhicules se passent mutuellement, alors que M. Williams, le témoin dont vous parlez tantôt, M. le juge, dit clairement que les véhicules se sont toujours suivis, qu'ils ne se sont jamais dépassés l'un l'autre, mais M. Williams dit quand même qu'à un moment donné, les deux véhicules qui roulaient plus vite, là, les deux véhicules impliqués, ont passé par la droite un véhicule. Mais là, est-ce que à cause de ça, on va imputer la faute de l'accident qui a causé des lésions corporelles à madame, que je n'ai pas contesté en appel, parce qu'il y aurait eu une conduite imprudente un peu avant, alors qu'à partir du moment où on a une preuve objective de ce qui se passe, un témoin qui explique pour une deuxième fois en réponse aux questions de la juge comment ça s'est déroulé, et ce qu'il dit est validé par la preuve vidéo. Je comprends. Alors, remarquez bien que la preuve vidéo, je l'ai regardée plusieurs fois, parce que la regarder une ou deux ou trois fois, c'est passé, mais si on la regarde plusieurs fois, on observe le temps et qu'on regarde les véhicules, on constate que M. Boudreau a probablement dit la vérité quand il a répondu aux questions de la juge, et c'est son erreur d'appréciation du temps pour franchir, comment qu'on fait, de quelle distance on franchit en une seconde. Bien là, c'était pas qu'une petite erreur, on franchit 30 mètres à 100 km heure en une seconde.
Mais Dumas, vous parlez de la faiblesse de la preuve de la couronne, c'est l'expression que vous avez utilisée auparavant, mais qu'est-ce qu'on doit faire de ce que Mme la juge Gagné dit au paragraphe 50? Elle estime que le dossier renferme une preuve susceptible d'appuyer une déclaration de culpabilité. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça?
Bien, c'est, C'est pour ça, Madame la juge, qu'on espère avoir un nouveau procès et être capable de corriger les erreurs les éléments qui n'ont pas été mis en preuve dans le dossier, qui semblent un peu injustes pour la plaire, si ce n'est que le fait que l'endroit de l'accident, on n'a même pas pris une photo du véhicule de la plaine. Peut-être que si on avait une photo du véhicule de la plaine et qu'on voyait son devant, on constaterait qu'il n'a pas frappé de plein fouet l'arrière, que l'accident s'est passé comme il le dit. En plus, on n'a pas le lieu exact, parce que si on avait le lieu exact de l'accident, on pourrait démontrer facilement, selon moi, que Madame Mercier, quand elle s'est déplacée dans la voie de gauche, l'accident est arrivé à peine une ou deux secondes après. Alors, c'est pour ça que je pense que Mme la juge Gagné a donné un nouveau procès, mais Mme la juge Gagné est intervenue parce qu'elle estimait que les motifs de la juge pour ne pas croire la plainte, même si elle ne le dit pas spécifiquement dans le jugement, quand on analyse la manière qu'elle a parlé à M. Boudreau avec ses questions à la fin de son témoignage, et quand on analyse ce qu'elle a dit à l'avocat de la défense lors des plaidoiries, nécessairement, la juge de première instance n'a pas bien compris comment l'accident s'est produit, et c'est pour ça qu'elle a déclaré coupable M. Boudreau, parce qu'elle a mal compris les circonstances d'accident, et elle ne l'a pas cru pour des raisons qui sont contraires à la preuve. Par contre, comme on soulignait tantôt, c'est sûr qu'il y a des éléments de conduite imprudente dans ça, mais est-ce qu'elles sont suffisantes pour entraîner un verdict de culpabilité? Je pense que non. Parce que, je vais dire comme, en tout cas, j'admets que c'est pas évident non plus, mais il y a une chose qui est évidente dans le dossier ici, c'est que la juge commet des erreurs sur la question de la distance, puis elle commet surtout des erreurs sur l'endroit où Mme Mercier se situe lorsqu'elle est frappée. Et d'ailleurs, dans le jugement de Mme la juge Gagné, l'extrait qu'elle a mis, qu'on met de la plaidoirie, à la fin, elle a dit « C'est la principale contradiction qui existe entre le témoignage de M. Boudreau et le témoignage de Mme Mercier. » Le fait que Mme Mercier est dans la voie de gauche depuis un bon moment. C'est la raison principale qui fait que la juge le déclare coupable. Elle ne dit pas mot à mot comme ça dans le jugement, mais dans la plaidoirie, ça semble acquis pour elle que c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, je pense que ça constitue une erreur importante qui vicie le verdict. Je vous remercie.
Complète vos représentations?
Oui.
Merci, Maître Dumas. Alors, Maître Raymond?
Bonjour, Mesdames les juges, Messieurs les juges. Avec ma collègue, Maître Sabrina Lambert-Michel, je représente l'intimé et je ferai les observations aujourd'hui. Comme l'indique l'appelant, son appel de plein droit ne remet pas en cause la norme juridique, le cadre juridique applicable à un moyen d'appel soulevant le verdict déraisonnable, plus précisément celui du type de l'arrêt Baudry, mais plutôt son application à la présente affaire. Or, pour ce faire, il convient d'abord de revenir sur c'est quoi au juste la norme de l'erreur de type Baudry, parce que c'est un critère qui est fort. Le raisonnement ou l'inférence de la juge du procès doit être à ce point illogique qu'il sape toute assise factuelle au verdict, que ce soit complètement dénué de sens, de sorte que le verdict, la conclusion ultime, est déraisonnable face à la preuve. Que c'est complètement irrationnel, contraire à une preuve qui est acceptée par la juge. Et c'est des cas qui sont rares. C'est des cas qui sont rares parce que l'arrêt Baudry nous dit que même si on conclut à de telles erreurs dans le raisonnement de la juge du procès, en appel, l'examen doit se poursuivre. On doit pousser un peu plus loin, passer, si on veut, à une deuxième étape, et donc voir si le verdict se trouve néanmoins fondé sur la preuve. Mais cette deuxième étape, surtout dans un cas comme le nôtre, où la preuve repose en grande partie sur une affaire de crédibilité des témoignages, doit se faire avec la déférence, qui est de mise pour la juge du procès sur ses conclusions de fait et d'appréciation des témoins. Est-ce que ce verdict est fondé sur la preuve? C'est ça la question. Ce n'est pas de savoir si un autre verdict était raisonnable suivant une autre interprétation de la preuve. Et c'est, à mon avis, ce que l'appelant invite à faire, soit refaire le procès en appel, ici maintenant en deuxième palier d'appel, et interpréter différemment la preuve. Invitation à laquelle la juge dissidente en cour d'appel a répondu favorablement en substituant son opinion à celle de la première juge. Il faut résister à cette tentation et ne pas donner une portée à l'arrêt Baudry qu'il n'a pas. Le verdict n'est pas illogique parce que d'autres inférences auraient pu être tirées. À la lumière de la preuve ici, clairement, ce verdict y trouve assise. Comme les juges majoritaires de la cour d'appel le font voir à leur paragraphe 32, la juge de première instance avait des éléments de preuve tant directs sur plusieurs aspects que circonstanciels sur d'autres pour compléter et arriver à ce verdict. Et à mon sens, c'est en occultant la déférence qui est de mise au terme d'une repondération des éléments de preuve qu'on est parvenu à identifier deux erreurs de type Baudry. Et c'est à mon avis le pas qu'a franchi la juge dissidente. Elle ne s'est pas contentée de réévaluer la preuve, mais le repondéré s'est livré à sa propre appréciation en faisant fi de la déférence qui est de mise, surtout dans une affaire de crédibilité des témoignages. Et c'est, à mon sens, ce manque de déférence et un regard trop sévère au motif de la juge à la recherche d'une erreur qui l'a fait conclure aux deux conclusions ou inférences illogiques qu'elle souligne. J'en arrive donc à ces deux conclusions, ces deux erreurs qu'elle identifie, les deux points de sa dissidence. On les a au paragraphe 47 de ses motifs. Je commencerai par le second, celui au paragraphe 47B, qui est en lien avec la voie dans laquelle circulait la victime de la conduite dangereuse dans ses motifs dissidents. Ce qu'on reproche à 47B est, à mon sens, dénué de fondement, puisqu'on utilise un extrait des plaidoiries à la fin du procès. Ce n'est pas du tout ce qu'on trouve dans le jugement, dans les motifs de la juge du procès. La juge du procès, à aucun endroit dans ses motifs, ne conclut que la victime circulait dans la voie de gauche bien avant l'impact. On ne peut pas utiliser, à mon sens, les plaidoiries pour faire dire aux motifs ce qu'ils ne disent pas, ni utiliser des échanges entre avocats et juges de procès pour spéculer sur ce que ne dit pas le juge dans sa décision et y façonner une erreur. Parce que ce qu'on voit dans les motifs de la juge de première instance, c'est tout à fait conforme au témoignage de la victime, Mme Mercier. Ce qu'on voit à ces motifs, on le voit à deux endroits. Dans son jugement, c'est, j'ai mis les extraits pertinents à mon onglet 2 du recueil condensé. Je pense que vous les avez bien ciblés aussi. La première mention de la voie de circulation, c'est à la page 3 du jugement de première instance, où on est alors dans l'exposé du contexte de l'affaire par la juge. En parlant du témoignage de la victime, la juge dit « Elle relate avoir circulé à gauche lorsque l'arrière de son véhicule est embouti. » Et plus loin, c'est à la page 16 du jugement, c'est alors le corps de son analyse. Elle revient et dit, toujours en parlant du témoignage de la victime, « Alors qu'elle circule à gauche, l'arrière de son véhicule est embouti. » C'est tout à fait conforme au témoignage de la victime et l'extrait des échanges en plaidoirie n'a, à mon avis, ici aucun impact. Ça ne ressort nulle part dans les motifs de la juge. Si jamais il y avait lieu d'y voir une erreur, et comprenez bien, je n'en vois pas, mais si jamais il y avait lieu d'y voir une erreur de par ses interactions à la toute fin du procès, à mon sens, ça n'a aucune incidence ici. Ça ne se matérialise pas dans ses motifs et ça n'a donc forcément aucune incidence sur le verdict, la conclusion en soi. On serait peut-être tout au plus dans ce qui est qualifié dans la RGF d'une expression imparfaite ou sommaire des motifs de la juge, mais Reste une chose, c'est tout à fait conforme au témoignage de la victime, et ce n'est pas du tout une erreur de type Baudry qui vicierait le verdict. J'en arrive donc au premier point de la dissidence, celui qu'on voit à 47A dans les motifs de la juge dissidente, celui qui a trait à la version de la plainte, son témoignage et le site des dommages aux deux véhicules. Je suis d'avis que la juge dissidente, tout comme Laplan, parvient à cette conclusion d'une erreur de type Baudry en omettant de considérer la position privilégiée qu'avait la juge, comme juge du procès dans l'appréciation de la preuve, notamment la crédibilité des témoins. On y préfère plutôt ici une autre interprétation de la preuve. Et les mots utilisés dans la dissidence parlent. Quand la juge dissidente écrit que la version de Laplan est parfaitement compatible avec le site des dommages, en plus d'être confirmé par le témoignage de la victime, c'est un indice clair, à mon sens, qu'on repondère les différents témoignages, éléments de preuve, surtout que la juge dissidente opte pour une autre interprétation de la preuve, et on ne se demande pas si le verdict s'appuie sur la preuve. On est dans une substitution d'opinion pure et simple. On substitue son opinion à celle de la juge du procès. Et je pousserai plus loin, le site des dommages, peu importe comment on l'oriente, c'est factuel. C'est une question factuelle. Donc, s'il y a une inférence sur un point spécifique factuel et que c'est illogique, c'est plutôt une erreur, une question de fait, selon l'erreur manifeste et déterminante. Ce n'est pas une question de droit ou une erreur de droit selon l'erreur de droit de type Baudry. Et ici, lorsqu'on évalue la preuve, parce que il faut quand même le faire sur un moyen d'appel de verdict déraisonnable. Lorsqu'on évalue la preuve, mais toujours en gardant la déférence qui est de mise pour la juge de première instance, son inférence sur le site des dommages est logique et est raisonnable. Est-ce qu'il y en a une autre qui était possible? Visiblement, la plainte a une différente, la juge dissidente en a une, mais ce n'est pas ça la question. Et en plus, ce n'est pas tout à fait exact de dire que le témoignage de Laplan est rejeté uniquement pour une incohérence avec le site des dommages. Il est rejeté pour beaucoup plus que ça. Il est rejeté pour l'ensemble de la preuve en raison des éléments de preuve, comme le notent les juges majoritaires, les éléments de preuve et évidemment les témoignages des autres témoins.
Et la juge d'instance, c'est-à-dire on est sévère avec la juge d'instance, mais elle dit à la page 14, que le témoin de l'accusé, on comprend que c'est un jugement rendu oralement,
oui,
et que l'exactitude des propos n'est pas toujours de la partie. Le témoin de l'accusé doit être apprécié en tenant compte de l'ensemble de la preuve et non pas en vase clos. Outre les témoins, une vidéo obtenue d'une caméra le ministère des Transports fait voir, etc. C'est très vrai. Est-ce que vous me permettez une question qui ne remet pas en cause votre présentation sur la norme d'intervention qui est la nôtre, mais la reconstruction de l'accident par la couronne ici, en l'absence d'une preuve d'expert, là, c'est pour mesurer le temps, par exemple, que ça aurait dû prendre entre le moment où la plaignante dit qu'elle s'est tassée à gauche, puis la collision et tout. Est-ce qu'on aurait pu apporter une preuve de ça? Je me demande, on a fait beaucoup d'efforts à ramasser une preuve assez complexe tout de même, témoignage de plusieurs personnes, vidéos, etc. Voici une question que je me suis posée en lisant le dossier, compte tenu du problème qu'au moment de la collision, on n'était même pas sûr de la vitesse à laquelle Laplan roulait.
Oui, bien, je crois que c'est pour répondre à cette question-là, le témoin policier l'explique dans son témoignage, je crois, mentionne que c'est l'avocat de Laplan en première instance le mentionnait. Si on avait fait une reconstitution, tout ça, et on explique qu'on le fait dans des cas plus graves, si on veut, de lésions plus importantes ou de conduites dangereuses ou décès, parce que ça implique une fermeture d'autoroute et des conséquences sur la circulation qui sont beaucoup plus grandes et qui ont des conséquences sur la circulation à plus grande échelle. Donc, ça n'a pas été jugé que c'était un cas selon les critères.
Ça n'affecte pas votre fardeau.
Ça n'affecte pas notre fardeau. Et je crois ici qu'on a quand même tous les éléments pour soutenir le verdict de culpabilité. Et évidemment, est-ce qu'on aurait pu avoir plus d'éléments matériels, preuves d'experts et tout ça? C'est sûr que dans un monde idéal, ça aurait été parfait. Mais ici, on a quand même un témoignage, je pense à l'arrêt Chung, la conduite dans les instants un peu avant l'accident sont clairs. On parle de course, de grands zigzags, de dépassement. Et donc, au sens de l'arrêt de Chung, à mon avis, toute cette portion-là peut asseoir la déclaration de culpabilité. Et par la suite, pour les instants avant l'accident, on a le témoignage de la victime. Et c'est là que je pense que la juge a tout à fait bien conclu. Et je m'inscris en faux avec la vision de mon confrère, mais le témoignage de la victime est clair, j'en cite dans mon mémoire, mais elle fait sa manœuvre à gauche. Elle fait son angle mort, en bonne conductrice, fait son angle mort à gauche, ne voit personne. Elle le dit, j'ai jamais vu venir, elle se tasse à gauche. Et c'est sûr qu'elle subit un très gros accident, un très gros choc, et ça vient confus par après, mais ce qui n'est pas confus dans son témoignage, c'est qu'elle dit qu'elle a continué, l'impact est survenu après, ça se passe vraiment après. Il y a quand même des mots qui sont là.
Elle soit rendue entièrement dans la voie de gauche.
Après qu'elle soit rendue entièrement dans la voie de gauche, donc elle a pu compléter sa manœuvre à gauche, continuer, et c'est là qu'elle dit, ça se passe après, vraiment après, c'est vraiment après l'impact. Et donc, c'est clair qu'elle était entièrement déjà dans la voie de gauche et forcément, elle continuait de circuler. Comme l'indiquent les juges majoritaires, forcément, elle n'était pas immobile. La plante devait arriver en trombe pour l'emboutir comme ça et qu'on ait les conséquences qui s'en sont suivies. Donc,
est-ce que d'habitude, la Couronne possède des vidéos des voitures sur l'autoroute dans de telles poursuites? Parce que moi, j'ai trouvé un peu surprenant que vous avez eu une vidéo des voitures.
Bien, c'est sûr que le ministère des Transports du Québec a plusieurs caméras sur les voies de circulation. C'est expliqué aussi dans le témoignage des témoins policiers. Les demandes ont été faites. Et bon, malheureusement, c'est la seule. Il y en a d'autres là, sur l'autoroute du Plessis, mais c'est la seule qui était disponible ou fonctionnelle ce jour-là. Comme ça peut arriver des fois dans des caméras de sécurité privées ou d'établissements, mais on n'a pas là, donc d'autres images ou à d'autres moments d'autres séquences d'images du ministère des Transports.
La conduite imprudente ou dangereuse dans les minutes qui précèdent l'accident peut servir à asseoir un verdict de culpabilité, mais je comprends que ce n'est pas votre prétention que ça suffit. Parce que ici, on a, oui, avant l'accident, mais on a aussi d'autres éléments dans la preuve.
Oui. Oui, à mon sens, la preuve est complète ici. On a une conduite qui démarre bien longtemps avant, plus d'un kilomètre, mais je pense que c'est plus, mais la juge parle de plus d'un kilomètre. Par la suite, quand les témoins perdent de vue à cause du vallon qui nous explique, perdent de vue, on a l'autre portion, la portion qui est la caméra du ministère des Transports, qui, comme la juge l'a dit, confirme l'impression d'une vitesse marquée par rapport aux autres conducteurs. Et après ça, comme les juges majoritaires le font savoir, on ne voit pas l'accident qui se passe un peu plus loin sur les images, mais on a ici le témoignage de la victime qui est clair et le témoignage de la plante qui était cohérent, non crédible et invraisemblable sur cet aspect-là, qui n'est pas cru et on retient le témoignage de la victime. Donc, je pense qu'on a une preuve complète, direct et circonstanciel, mais une preuve complète, et le verdict trouve son assise amplement sur la preuve au dossier. Et donc les deux erreurs de type Baudry qu'on a identifiées, que la plante a identifiées, que la juge dissidente a retenues, sont infondées, et comme je le mentionnais, indiquent qu'on est plutôt allé on a troqué ses habits de juge d'appel pour aller sur un terrain de première instance et choisir plutôt une autre interprétation de la preuve, parce que les deux erreurs qu'on identifie, de un, à mon sens, n'en sont pas, et de deux, comme je venais de le mentionner en réponse à votre question, Madame la juge, ne font pas en sorte que la conclusion ultime, le verdict de culpabilité est déraisonnable face à la preuve qu'on a ici. Et je fais un lien avec ce que je disais en entrée de plaidoirie. Je pense que la juge, quand on lit ses motifs, on voit qu'elle s'est arrêtée à la première étape de l'arrêt Baudry. Elle n'a pas poussé son examen.
Mais est-ce qu'elle n'a pas fait une erreur elle-même, la juge décidant dans le paragraphe 43?
43.
Parce que pour moi, elle a dit ça. Le juge a rejeté le témoin de l'appellant pour le seul motif. Mm-hmm. Et ce n'est pas du tout le cas, d'après vous. Hein?
Non, je suis entièrement d'accord avec vous, Madame la juge. Je ne suis pas du tout d'accord parce que la juge le rejette pour beaucoup plus que ça. Je vais juste retrouver le passage. Comme M. le juge Cazirel a mentionné, donc, il y a le passage à la page 14 du jugement, le témoignage de l'accusé doit être apprécié en l'ensemble de la preuve, pas en vase clos. Donc, on a les témoins ici, la victime, les trois témoins civils, une preuve du ministère des Transports. Et à l'autre page, on mentionne que le site des dommages et le récit de l'accusé sur les circonstances précédant immédiatement l'impact sont incompatibles et la version qu'il livre est dénuée de logique. Quand je lis ça, moi, les circonstances précédant immédiatement l'impact, on fait forcément référence, oui, un peu à la caméra, aux images du ministère des Transports, mais surtout aux témoignages des trois témoins qui sont clairs et qui, comme je l'indique dans mon mémoire, le placent, et son identification était admise, le place bien avant, bien en amont sur Duplessis, où lui dit qu'il rentre. Selon son témoignage, il arrive un peu plus au sud, un peu plus loin, mais les témoins sont déjà bien avant ça et voient déjà cette course-là. Et les trois se font dépasser, ils voient déjà par l'arrière. Donc, la course durait depuis déjà un certain temps. Donc, c'est vrai que la juge dissidente, à mon sens, réduit. Une lecture un peu réductrice des motifs de la juge, parce que c'est pas vrai que le témoignage de Lapin est écarté pour une seule incompatibilité avec le site des dommages.
La juge dissidente quand même mentionne à ce même paragraphe 43, à la toute fin, la dernière phrase. Or, comme mentionné précédemment, le rapport d'évaluation des dommages démontre que l'impact principal est survenu au coin arrière-gauche et que les dommages se situent surtout à l'arrière et du côté gauche. Mm-hmm. Alors, je voudrais que vous commentiez cette phrase. On a la photo qui démontre qu'il y avait des dommages des deux bords, ouais, de l'arrière. Ça, j'en conviens. Mais elle fait référence au rapport d'évaluation dans son ensemble et la référence au coin arrière-gauche. Pouvez-vous commenter ça?
Bien, là-dessus, j'ai la même vision que les juges majoritaires au paragraphe 30. Quand le juge Ruel, pour la majorité, écrit que suivant une lecture complète du rapport d'évaluation, la destruction de l'ensemble des structures arrière-latérales du véhicule sont des deux côtés. Donc, l'essieu, caisson, des portes des deux côtés, panneau latéral gauche et arrière. Donc, il y a... Je pense que le rapport des dommages est vraiment très particularisé, très, très, très détaillé. On va sur chaque pièce. Perte totale. Les deux autos sont perte totale. Mais je crois que ça reste quand même compatible avec ce qui est...
Je crois, sauf erreur de ma part, le souci était que, ouais, selon le désaccord sur le moment de la collision,
ouais,
que la voiture était désaxée.
Ouais.
La manœuvre n'était pas complète, elle ne roulait pas dans la voie de gauche pour plusieurs secondes, la voiture était encore désaxée. Et que ceci expliquerait, selon cette phrase, que le coin arrière-gauche a été plus fortement touché que le reste, malgré la perte totale constatée, comme vous dites. Alors, les juges majoritaires en parlent, affirme que ce n'est pas, ça ne signifie pas que le véhicule de la plaignante était désaxé par rapport au sien, mais c'est une affirmation. Là, c'est pour ça que je voulais vous avoir votre point de vue.
Mais, je pense que sur cet aspect-là, faut éviter. Je pense que c'est là que la juge dissidente est allée dans une autre interprétation, la preuve, une autre interprétation, en lisant le rapport d'évaluation des véhicules. Parce qu'elle mentionne quand même dans son témoignage, la victime, Mme Mercier, que elle a circulé un certain temps à gauche une fois qu'elle s'est tassée, et c'était ultimement pour laisser la place à ceux qui rentraient la sortie du chemin Sainte-Foy sur l'autoroute, et qu'elle amorçait, je crois qu'elle amorçait déjà de se retasser à droite pour dégager la voie rapide, donc ce qui peut peut-être expliquer une disons plus à gauche ou son coin à droite. Puis sinon, je pense qu'une voie de circulation, il y a quand même une certaine distance qui fait que les véhicules peuvent ne pas être parfaitement alignés, donc c'est peut-être une autre explication, mais je pense qu'on n'a pas à se poser cette question-là exactement quand on est sur un verdict déraisonnable. Parce que, ultimement, les témoins sont tous arrivés sur les lieux, ont reconnu les véhicules, bien, le véhicule de Laplan, et ont tous dit que le devant était embouti, l'arrière, il y a une témoin qui parle que la valise, le coffre était complètement renfoncé, levé en l'air, les photos le confirment. Donc, est-ce que, de par la force, la vitesse, on est un petit peu plus poussé à gauche? Peut-être. Mais au final, c'est l'arrière au complet qui a été embouti, c'est ce qu'elle a senti, la victime. Et, à mon sens, c'est ce que la juge retient. Et c'est une conclusion qui est tout à fait assise sur la preuve et raisonnable dans les circonstances. Donc, la juge dissidente, comme je le mentionnais, commet aussi l'erreur de ne pas être allée à la deuxième étape, que nous dit l'arrêt Baudry, de ne pas avoir poussé son examen à savoir si le verdict était, malgré les erreurs de raisonnement qu'on identifie, était déraisonnable face à la preuve. Et je pense que si elle avait poursuivi, on n'en serait pas là. Et comme vous l'avez mentionné, Madame la juge, il y a le paragraphe 50 à la fin de sa dissidence qui mentionne que pour elle, le remède est une ordonnance de nouveau procès, contrairement à ce que Laplan demandait, un acquittement pur et simple. Alors, je comprends qu'aujourd'hui, il serait d'accord avec l'ordonnance de nouveau procès, là, mais jusqu'à dans son mémoire, demandait encore l'acquittement pur et simple. Mais elle dit que ce serait pour elle une ordonnance de nouveau procès. Parce que la preuve est susceptible d'appuyer une déclaration de culpabilité sur le chef d'accusation tel que porté, conduite dangereuse causant des lésions, et même un chef moindre inclus. Donc, si elle avait poussé son analyse, je pense qu'on n'en serait pas ici. Elle aurait conclu que néanmoins, le verdict, la conclusion en soi, c'est ça qui est à l'étude, sur un moyen d'appel, un verdict déraisonnable, n'était pas déraisonnable. Donc, en somme, trop scrutatrice et sévère, la dissidence, à mon sens, ne rend pas justice au motif de la juge de première instance et à son analyse, qui est tout à fait logique, rationnelle et fondée sur la preuve. Tout comme son verdict, qui est, quand on respecte la norme d'intervention en la matière, comme l'ont fait les juges majoritaires, un verdict raisonnable. Et avaliser aujourd'hui la position de Laplan et, par extension, de la juge dissidente, reviendrait à remettre en cause le cadre juridique, la norme juridique du moyen d'appel du verdict déraisonnable, plus précisément de celui de type Claret Baudry, alors que ce n'est pas sur ce quoi porte le pourvoi d'aujourd'hui. Donc, pour ces raisons, je pense avoir fait mon point assez clair que le verdict de culpabilité à l'infraction de conduite dangereuse causant des lésions à Mme Mercier est raisonnable, et en fait, même le verdict qui s'impose face à la preuve qu'on a ici. Et pour ces raisons, nous vous demandons de rejeter l'appel. Moi, vous ayez des questions, ça compléterait mes observations.
Merci, maître. Merci. Maître Dumas, est-ce que vous avez une réplique?
Oui, si vous me permettez une brève réplique. J'ai peut-être oublié de souligner tantôt. Je sais que dans les causes d'appel, la position de l'avocat de la défense, très souvent, lors des plaidoiries, peut avoir une certaine importance. Alors ici, mon confrère soutient que les remarques de Mme la juge pendant les plaidoiries à l'avocat de la défense, qui sont rapportées par la juge Dante en cour d'appel, qui sont à la page 48 et 49 de mon condensé, sont quand même très explicites. L'avocat de la défense souligne que, à la suite de la plaidoirie de la poursuite, on avait fait état que Mme Mercier, la victime, circulait dans la voie de gauche. Et là, dans les discussions que la juge a avec Maître Barrette, la juge est quand même catégorique. Elle est toujours restée sur la voie rapide. C'est ce qu'elle a dit. Là, Maître Barrette semble surpris de cette réponse. Elle réaffirme toujours. Et là, Maître Barrette suggère qu'elle était dans la voie de droite et la juge répond, elle n'est pas allée dans la voie de droite. Elle n'est jamais allée sur la voie de droite, selon Maître Barrette. La Cour répond, non. La Cour dit, Madame la juge dit, c'est la principale contradiction entre le témoignage de votre client puis le sien. Et là, mon confrère, en tout cas, vous invite à dire qu'il n'y a pas de lien entre ce que la juge dit à ce moment-là avec son jugement. Alors, si je retourne à son jugement, brièvement, la juge dit dans le jugement, la page 16 de mon condensé, après avoir parlé de l'élément matériel par rapport au dommage, cet élément matériel est parfaitement logique avec la description que livre la plaignante. Alors qu'elle circule à gauche sur la voie rapide, l'arrière de son véhicule est embouti sans qu'elle n'ait vu venir le véhicule conduit par l'accusé. Alors, je vous propose respectueusement qu'à cette affirmation de la juge, découle de ce qu'elle a dit lors de la plaidoirie, qu'elle, pour elle, Mme Mercier circulait dans la voie de gauche. Alors, cette conclusion-là est totalement inacceptable parce qu'elle est totalement contraire à la preuve.
Fondée sur le témoignage de la plaignante, Maître Dumas, je comprends des motifs de la première juge que... La première juge dit ça parce que c'est ce que la plaignante a dit dans son témoignage.
Non, elle a dit ça à l'invitation d'un procureur de la poursuite dans la plaidoirie. Quand la juge discute avec Maître Barrette, c'est clair qu'elle est convaincue que Mme Mercier est dans la voie de gauche tout le temps. Mais là je me dis, mon confrère vous invite à faire preuve, on demande de faire preuve d'indulgence à l'égard des jugements du juge de première instance. On peut comprendre ça, mais il me semble que l'indulgence va loin ici, là. Parce que la juge,
Maître Dumas,
se trompe.
Vous me permettez, Maître Dumas, entre la date de l'audience et de cet échange, qui est daté du 2 septembre, sauf erreur de ma part, et la date du jugement, plusieurs jours après, rendu oralement, la juge a pris l'affaire en délibéré, a réfléchi, a revu son dossier. Non?
Oui, et c'est
alors,
pour ça que je
alors
pense
nous,
que...
en appel,
je m'excuse.
On a l'avantage de son jugement.
Je pense que la juge aurait dû dire, dans son jugement, écoutez, lors des plaidoiries, j'ai peut-être commis une erreur en croyant par erreur que Madame circulait dans la voie de gauche, et je réalise que ce n'est pas ce qu'elle a dit. Si elle a circulé dans la voie de gauche, Madame Mercier, c'est un peu avant la sortie du chemin Sainte-Foy, c'est elle-même qui l'a dit. Et là, elle ne corrige pas ça, et là, il faut vivre avec ses conclusions qui reposent, selon moi, sur un principe qui n'est pas exact et qui est contraire à la preuve. Je vous remercie.
Merci, M. Dumas. Alors, nous demandons aux avocats de demeurer à notre disposition. Nous allons nous retirer et vous reviendrons un peu plus tard. Merci de vous asseoir. Alors, merci d'être demeuré à notre disposition. Nous sommes prêts à rendre notre décision. Alors, nous désirons remercier les avocats pour leur représentation, tant Maître Dumas que du côté du ministère public. Alors, la Cour est prête à rendre sa décision, laquelle est unanime. Ayant examiné les motifs rendus oralement de la juge du procès, pour déterminer si le verdict a été vicié par un raisonnement illogique ou irrationnel, au sens des arrêts R contre Baudry, 2007, rapport de la Cour suprême 5, et R contre Sinclair, 2011, rapport de la Cour suprême 40, nous sommes d'avis de rejeter l'appel. Avec égard, même si la juge aurait pu s'exprimer plus clairement par moment, l'appelant ne fait pas voir une erreur révisable, car l'inférence de la juge repose sur toute la preuve. En particulier, il n'y a pas d'erreur révisable à l'égard du témoignage de la plaignante quant à la position de sa voiture au moment de la collision. Ainsi, et essentiellement pour les motifs de la majorité de la Cour d'appel, nous rejetons unanimement l'appel. Merci, et la Cour est adjournée à demain matin.